Studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Kidal, la même heure partout au Mali. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Au sommaire, l'administration a quitté le camp de Kidal sans une rétrocession de l'emprise aux femmes. Les forces armées maliennes ont dénoncé une violation de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour la bonne gestion du carburant et des dépenses, la société Edemessa passe de 800 fournisseurs à 4. Cette décision a été prise hier par la ministre en charge de l'énergie et de l'eau. Esclavage par ascendance, des leaders religieux et coutumiers se concertent pour mettre fin à la pratique. C'est au cours d'une table ronde organisée ce mardi à Bamako. Les détails au cours de cette édition présentée par Moumine Sendebou avec la collaboration technique de Salima Djouara. Comme tantôt annoncé, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a quitté ce mardi le camp de Kidal. L'information rapportée par le porte-parole de la coalition des groupes armés signataires de l'accord pour la paix a été confirmée par l'aménagement et les forces armées maliennes. Les femmes regrettent que ce départ s'effectue hors de la résolution des Nations Unies qui exige la rétrocession des emprises de l'aménagement aux femmes. Khalifa Goïta nous en dit plus.
L'aménagement a mis fin à sa présence dans la région de Kidal aujourd'hui après le départ de ses derniers personnels par avion et par convoi terrestre. Peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook de la mission onisienne. L'aménagement se retire donc de sa dernière emprise dans la région après celle de Tessalit, Aguelog. Quelques heures auparavant, le porte-parole du cadre stratégique permanent, Mohamed El Maouloud Ramadan, avait également indiqué sur son compte Facebook, après Barkhane, ce 31 octobre, l'aménagement a plié bagage de Kidal. Désormais, la ville est sous contrôle total du CSP-PSP. Dans un communiqué, les forces armées maliennes disent avoir constaté avec regret le retrait de l'aménagement du camp de Kidal. Elles déplorent qu'une fois de plus, cette emprise n'a point fait objet de rétrocession comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises aménagement. Cette situation de départ précipitée de l'aménagement met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal, poursuit la note.
Eh bien, Khalifa, plusieurs cibles terroristes aux alentours du village Lutakoulé dans le cercle de Kidal ont été identifiées et détruites. Selon un communiqué des femmes, c'était hier lundi au cours d'une mission de reconnaissance offensive menée dans la zone. Pour plus de sécurité, les femmes exhortent les populations à plus de vigilance. À 18h passées de 3 minutes, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Un nouveau centre de dialyse ouvre ses portes à Bamako. C'est une œuvre sociale du président de la transition, Assimi Goïta. Il a inauguré ce mardi 31 octobre 2023 en commune 5 du district de Bamako. Selon le ministre de la Santé et du Développement social, cette réalisation est une réponse à la problématique de la prise en charge de la dialyse dans le pays. Et nous poursuivons ce journal avec cette autre actualité. Réduction drastique du nombre de fournisseurs de la société EDMSA de 800, comme l'avait annoncé la ministre de l'Énergie la semaine dernière. Il passe à 4 fournisseurs. La décision a été prise hier lors d'une rencontre entre la ministre Bintou Camara, des opérateurs pétroliers fournisseurs de l'EDMSA et des responsables de la société. Cette mesure entre dans le cadre du redressement de l'EDMSA. Le point avec Ousmane Nyalibouli.
Ces 4 sociétés identifiées vont assurer désormais l'approvisionnement correct et ininterrompu de l'EDM en combustible, selon la ministre de l'Énergie. Des fourniront du fioul et des autres du gasoil. Bintou Camara a expliqué qu'un système de gestion basé sur fioul management sera mis en place. Cela permettra, dit-elle, de surveiller et de contrôlée à l'aide d'un compteur les niveaux de fioul ou de gasoil dépotés par les fournisseurs dans n'importe quelle centrale électrique du pays. La ministre rassure que des efforts seront faits par l'EDEM et l'État pour les paiements corrects des fournisseurs. Bintou Camara a invité ses partenaires à un respect strict de leur engagement. Selon le directeur général de l'EDEM SA, de nouvelles modalités de gestion visent à favoriser une gestion saine de la société. Il ajoute que le fuel management annoncé permettra de mieux gérer et améliorer la consommation de carburant et les dépenses liées. Les opérateurs pétroliers choisis se sont engagés tous à honorer leur part du contrat. Toutefois, ils demandent aux autorités le paiement de leurs dettes, mais aussi de renforcer la confiance entre eux et leurs partenaires, notamment les institutions financières et les banques.
Alors, du côté de la population, on espère une solution dans l'immédiat pour mettre fin au délestage. Certains se disent compréhensifs et soutiennent l'initiative, mais en revanche, pour d'autres, ce n'est pas le nombre de fournisseurs qui compte, mais la capacité de l'État à assurer une meilleure gestion. Écoutons ces réactions recueillies par Maman Baba Kunta avec le concours de nos correspondants.
Cette nouvelle m'a beaucoup étonné parce que aujourd'hui, là où 800 personnes n'arrivent pas à gérer le problème, est-ce que ce nombre pourra relever ce défi? Notre inquiétude à Bandiagara, c'est ça.
Moi, je suis à Ségou en tant que citoyenne d'ici. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Ce que je demande à mes autorités, que ce soit des fournisseurs compétents qui peuvent résoudre l'affaire.
Ces coupures intempestives sont liées à la mauvaise gestion qui est tout le temps dénoncée. Et si le ministre de la tutelle prend des décisions par rapport à la réorganisation des cette structure, moi vraiment, je ne fais que l'apprécier, je ne fais que vraiment féliciter l'initiative.
Vraiment, la population souffre, surtout nous les travailleurs. On vient matin au service, on retourne sans faire quoi que ce soit. Donc nous, on est prêts à l'accompagner, Madame la ministre, Inch'Allah.
Cap sur un autre sujet, une table ronde des leaders religieux et coutumiers sur la pratique de l'esclavage et le travail forcé au Mali s'est tenue ce mardi à Bamako. C'est une initiative du projet de lutte contre l'esclavage de l'Organisation internationale du travail au Mali. Selon ses responsables, cette rencontre vise à échanger sur la perception religieuse et traditionnelle de l'esclavage et en faire un guide de sensibilisation communautaire. Le reportage est signé Koumafi Keita.
La persistance de l'esclavage par ascendance inquiète l'opinion publique au Mali. Pour inverser cette tendance, les acteurs qui luttent contre ces phénomènes ouvrent un cercle de réflexion avec les leaders religieux et coutumiers. Ibrahima Cissé, coordinateur national du projet de lutte contre l'esclavage à l'OIT au Mali.
C'est qu'on puisse avoir le meilleur par rapport à l'interdiction de cette pratique vis-à-vis de la religion musulmane, vis-à-vis de la religion chrétienne, vis-à-vis aussi des coutumes et de sortir avec un document consensuel pour apaiser, il faut dire, les tensions sociales.
Mamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, a invité les participants à véhiculer des messages pour un changement de mentalité dans nos communautés.
Au Mali, à travers cette pratique néfaste, il y a eu des déplacements forcés. C'est vous qui êtes les flambeaux de la parole dans la société et c'est vous qui devez prêcher la bonne parole pour que ces fléaux cessent.
Les participants venus du Nord, au Centre et de Bamako demandent aux autorités du pays de voter une loi qui proscrit la pratique de l'esclavage.
On en vient à notre dossier de la semaine. Le monde célèbre aujourd'hui, 31 octobre, la Journée mondiale des villes. Cette journée a pour objectif d'instaurer un cadre d'échange avec les acteurs de l'urbanisme sur les défis qui pèsent sur les villes. Au Mali, elle intervient alors que des citoyens se demandent si les villes maliennes méritent cette appellation. Pour en savoir plus, suivons ce dossier de la rédaction réalisé par Fadi Talfimaïga.
Dans les villes de Kayi, Ségou et Sikasso, nous avons demandé à des habitants leur appréciation sur ces différentes villes. Si beaucoup pensent que leur cité mérite le statut de ville, d'autres déplorent l'insalubrité dans ces villes.
Kayi a le statut d'une grande ville.
La ville de Ségou, elle répond bien le statut d'une ville parce que tout ce dont une ville en a, Ségou en a sur tous les plans.
Moi, je pense que Ségou, c'est une ville paisible, mais qui a besoin d'assainissement.
Sikasso est une grande ville donc, qui est très riche économiquement.
Dans la capitale malienne, le constat est tout autre. Selon des habitants de Bamako, la ville ne répond pas aux normes d'une ville en termes d'infrastructure.
Bamako ne répond pas beaucoup aux critères de la ville hein, parce que c'est une ville qui est quasiment polluée, très sale.
En termes d'éclairage, en termes de tout ce qui se passe, Bamako ressemble à un gros village, pas la ville.
Sur un plan infrastructurel, par exemple, bon, nous sommes en retard par rapport à pas mal d'autres capitales, ça c'est sûr.
Pour beaucoup de Maliens, l'insalubrité est un défi auquel sont confrontées les villes du Mali. Elle constitue d'ailleurs une menace sur leur statut de ville, disent-ils. Pourtant, des environnementalistes affirment que le statut de ville n'a rien à voir avec le niveau d'insalubrité. Abdraman Sanogo, environnementaliste.
Le statut de ville se gagne ou se perd en fonction du nombre de la population, pas de l'état d'insalubrité ou de l'état de la propriété d'une ville. Si c'était cela, beaucoup de grandes villes du monde allaient perdre leur statut de ville.
En République du Mali, une ville se définit comme une cité qui compte moins de 5000 habitants, nous dit Drissa Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population. Selon lui, les défis des villes maliennes sont liés à l'urbanisation.
On assiste à un étalement aujourd'hui. Ça fait appel à d'autres services sociaux de base pour satisfaire cette population hein, qui est dans la périphérie de nos agglomérations. Aujourd'hui, c'est le projet de résilience urbaine de Bamako. Et demain, on attend d'autres projets de résilience au niveau des villes secondaires afin d'améliorer les cadres de vie de la population, avoir un développement harmonieux de nos cités.
À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des villes, les responsables de l'urbanisme appellent les populations au civisme.
Nous recevons à présent Imirana Kilumaiga pour nous parler du thème du grand dialogue de ce soir. Bonsoir Imirana.
Bonsoir Moumine.
Quel est le sujet que vous abordez?
Quelle prise en charge pour les malades mentaux dans la foulée de la journée mondiale de la santé mentale célébrée hier 30 octobre? Studio Tamani pose le débat avec nos invités, Dr Joseph Traoré, psychiatre à l'hôpital du Point G, Brahma Sangaré, psychologue au département de la psychologie de la faculté de sciences humaines et de sciences de l'éducation, et Bandjougou Agueil, président de l'association des enfants autistes d'Iguia.
Merci et bonne présentation. Alors, chers auditeurs, c'est ce qui boucle ce journal présenté par Moumine Senebou avec Salim Djouar à la mise en onde. Vous pouvez retrouver cette édition ainsi que toutes nos productions sur l'application Studio Tamani via Play Store. Merci pour votre aimable attention et ne décrochez pas car le programme continue.